Alors, si vous voulez vous lever, on se lève pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 28, les versets 1 à 22, tout le chapitre, autrement dit, Genèse chapitre 28, versets 1 à 22. Alors, Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi. » Va à Padamaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné que Dieu a donné à Abraham. Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padamaram, vers Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padamaram pour y prendre une femme en le bénissant, et qu'il lui avait commandé et dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. » Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et s'en était allé à Padamaram. Ésaü, voyant que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nébajot. Mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu, en fit son chevet, et se coucha là, en ce lieu-là. Alors il eut un songe, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénis en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu-ci, et je n'en savais rien. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa en monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Et il appela ce lieu-là Bethel, maison de Dieu, tandis qu'auparavant, la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et me garde dans ce voyage que je fais, et me donne du pain pour manger, et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en ce monument sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » Alors, si vous voulez vous asseoir, alors on va reviser un petit peu ce qu'on avait vu la dernière semaine, et ensuite on va terminer le chapitre 28. Comme on avait mentionné lors de notre dernière sermon, on sait qu'au cours d'une vie chrétienne, on fait tous des bêtises. Moi, en effet, puis je suis à peu près sûr que vous l'avez fait vous aussi. Mais la chose est que Dieu ne nous abandonne pas. Même quand on commet des graves péchés, on a vu que Isaac, qui était le père de Jacob, et alors il s'était mis les trois, il avait voulu transmettre la bénédiction qui aurait dû être au plus au plus jeune, c'est-à-dire au lieu du plus vieux. Normalement, les bénédictions se transmettaient du père au plus vieux, mais eux, ils ont complété ensemble pour que la bénédiction aille à Ésaü au lieu d'Isaac, au lieu de Jacob, c'est-à-dire. Alors, leur péché était quand même grave, ils avaient fait des choses graves, il y avait eu du mensonge là-dedans, il y avait eu toutes sortes de péchés, mais Dieu va utiliser les péchés de ces personnes-là pour les corriger, pour leur apprendre des principes, pour les éduquer, autrement dit. Alors, Dieu avait dit que ce serait le plus jeune qui recevrait la bénédiction. Normalement, ça aurait dû, vu que Ésaü était le plus vieux, ça aurait dû être lui qui aurait dû recevoir la bénédiction qui se transmettait de Abraham, Jacob. Ça aurait dû être Ésaü. Mais Dieu avait dit, il savait ça, Dieu avait dit que la bénédiction irait à Jacob. Alors, on sait qu'ils ont Isaac, il a complété avec sa femme, chacun à leur façon, on ne reprendra pas tout le passage qu'on a vu, là, mais avait complété pour faire que les choses n'arrivent pas telles que Dieu l'avait promis, l'avait dit. Alors, on sait que quand le Seigneur, il promet quelque chose dans son alliance, dans ses décrets, dans ses promesses, peu importe que les êtres humains les plus brillants se mettent dans son chemin, les choses vont arriver telles que Dieu le dit, dans ses promesses, dans ses décrets, dans son alliance. Alors Dieu, heureusement, corrige nos comportements pécheurs, un peu comme nous on fait avec nos enfants. Quand on a des enfants, ils sont jeunes, ils font toutes sortes de... ils sont pécheurs, hein? Oh, ils font toutes sortes de péchés. Mais est-ce qu'on les laisse faire? On les laisse pas faire, on intervient, on les éduque comme Dieu veut qu'on éduque nos enfants, on les laisse pas faire. Mais Dieu, il dit qu'on est ses enfants. Est-ce qu'il nous laisse faire toutes sortes de bêtises sans nous corriger? Non, il nous corrige. Et ça, on est très, 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 très content et très, très heureux que Dieu fasse cela, parce que sans ça, on retomberait dans nos péchés jusqu'aux oreilles, comme on dit. Alors Dieu nous corrige parce qu'on a besoin d'être corrigé. Et ici, on va avoir un exemple, justement, ces trois personnes-là avaient besoin d'être corrigées et ils vont l'être. Alors la discipline et le châtiment font partie de la vie du croyant. Alors dans le chapitre qu'on vient de lire, on va voir comment le Seigneur va éduquer son élu Jacob. Jacob, c'est un petit joueur de tour. Il avait dit à son père, il s'était déguisé, il s'était mis un manteau, il s'était mis du poil, sa mère l'avait aidé à mettre du poil ses mains, pour que le père pense que Ésaü était Jacob. L'inverse. Alors, Dieu va éduquer ses enfants, il va éduquer Élu, et il va le faire par plusieurs moyens. Alors, Jacob va être dans la détresse, parce que, autrement dit, si on se souvient de la dernière fois, on a dit que partir de où qu'il était, son père lui avait dit, va te chercher une femme dans le pays, prends-toi pas une femme du pays, les Canaan, c'était 800 kilomètres. 800 kilomètres à pied. C'était un peu comme partir d'ici puis monter à Rouyn-Noranda à pied. Moi, j'ai déjà resté à Rouyn-Noranda, j'ai une petite idée de la distance. Et si quelqu'un me disait ce matin, il faut que tu montes à Rouyn-Noranda à pied, je trouverais le voyage très long. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il était dans un état de détresse, il part avec son petit baluchon, il n'y avait rien, autrement dit, puis il s'en va pour se trouver une femme dans le pays, parce que son père lui avait dit, va voir dans ma parenté, tu vas voir. Alors, il part, mais il est dans la détresse, il est dans la nuit, Le Seigneur a intervenu dans son voyage d'exil à 10% de son trajet. Autrement dit, il y avait 80 km de fait, d'après les villes qu'il nomme, puis tout ça, là, il y avait à peu près 80 km sur 800. Donc, c'était un peu comme si je partirais, que je serais rendu à Sherbrooke, et dans mon dénuement, dans ma misère, dans mes difficultés, le Seigneur intervient à 10% de mon trajet. Très gracieux, hein? Très, très gracieux. Il était pauvre, et là, il se ramasse, il est obligé de coucher sur le sol, à terre, à la belle étoile, Alors, c'est un homme d'intérieur. Quand on lit les autres chapitres précédents, on sait que c'est un homme d'intérieur. Un homme d'intérieur qui se ramasse dehors. Un homme qui est habitué dans les champs. D'habitude, à la chasse, comme Ésaü, c'est à son cas. Lui, ça n'y aura pas dérangé, là. Mais lui, c'est un homme d'intérieur. Alors, Dieu l'envoie et le met dans un. Imaginez-vous, il est tout seul. Il n'y a pas de place pour coucher. Et là, il dort à la belle étoile. Et là, c'est là que Dieu intervient. Dans sa misère, dans sa pauvreté, dans ses difficultés. Dieu vient se révéler à lui. C'est le passage, le chapitre 28, la Genèse, d'ailleurs, toute la Bible est d'une profondeur. On lit ça des fois, mais on manque tellement de choses. Il y a tellement de leçons que le Seigneur veut nous enseigner dans ce chapitre-là. Tellement de leçons. Alors, on va voir que Jacob, dans sa détresse, dans sa peur, il va, et dans son dénuement, il n'y a plus rien. Imaginez-vous, tu pars... Part du site, puis m'en va à Rouyn-Noranda, puis j'ai juste un petit baluchon. Tu couches à terre, tu couches à la belle étoile. Il doit y avoir toutes sortes de sentiments qui te passent dans la tête, hein, la peur, puis tout ça. Alors, Dieu va permettre que, dans sa recherche, il va rechercher Dieu d'une certaine façon, parce que, comment on voit qu'il recherche Dieu? C'est le fait qu'il obéit à son père, et il obéit à sa mère, qui lui dit, pars et va-t'en là. Premièrement, une des raisons, c'était par sécurité. Parce que si tu t'en vas pas, Ésaü, il va te faire la peau. Parce qu'Ésaü était dans une colère noire contre lui, et là, il avait besoin de s'en aller. Sinon, s'il n'était pas en allé, il y aurait eu un meurtre dans la famille, probablement, parce qu'il avait l'intention de le tuer. Il le dit carrément dans le chapitre précédent. Il avait l'intention de le tuer. Alors, il part, pour deux raisons. Il obéit à sa mère et à son père en quittant. Sa mère, souvenez-vous ce qu'elle avait dit, « Va-t'en dans ce coin-là, puis dans quelques semaines, je vais te ramener. » Elle n'a pas compris, là. Elle a compris peut-être plus tard. Elle a eu le temps de mourir avant qu'il revienne. Parce qu'il est parti, puis il a demeuré 20 ans. Et durant ces 20 ans-là, le Seigneur a travaillé sur le caractère de Jacob. C'est un trompeur, hein? Un ratoureux. Et le Seigneur va se servir de Laban, qui est un plus grand ratoureux que lui, pour lui enseigner des leçons. Le Seigneur travaille toujours de la même façon. S'il le fait à Jacob, il le fait à nous aussi. Il va nous corriger. Alors, on va voir que dans sa détresse et son dénuement, Jacob va apprendre à rechercher Dieu. Deuxième chose, Jacob va vivre intensément l'expérience du Dieu qui va se révéler à lui. Parce qu'on va les revoir un peu tantôt. Le fameux passage de l'échelle, il y a eu un rêve, et là, dans le rêve, Dieu lui parlait, et tout le symbolisme des anges qui descendaient, qui montaient sur l'échelle. Et l'échelle, on va pouvoir la démontrer plus tard par un passage du Nouveau Testament, l'échelle représente Christ. Alors, quand on va regarder ça, ça nous parle de Jésus-Christ, dans le fond. Mais on va développer un petit peu plus loin. C'est juste pour qu'on ait une idée déjà. Alors, Dieu va se révéler. Là, pour l'encourager, il part dans un voyage de 800 km à fait. Il ne fait 80, il a fait 10%. Le Seigneur se révèle à lui pour l'encourager, pour lui montrer des principes, pour l'éduquer. Donc, il va se révéler à lui, il va lui enseigner des choses extrêmement importantes. Et c'est à partir du moment où il va continuer son voyage, parce que là, je suis en train de préparer le chapitre 29 cette semaine, fait que une affaire qui m'a fait penser, il dit, chapitre 29, il dit, il parle beaucoup dans le chapitre 22 du premier 10% de son trajet. Et pour parler du reste du trajet, là, il a pris un verset. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est qu'après que Dieu eut intervenu dans sa vie pour l'encourager, le reste, même si ça a été très long, ça lui a paru comme rien. Un verset pour parler du reste du voyage. Donc, le reste du voyage, il l'a vécu dans la tranquillité, le fait d'être rassuré par le Seigneur, qui le rassurait sur plein de choses, et lui avait dit qu'il était pour être avec lui, qu'il était pour l'accompagner, puis qu'il était pour le ramener dans le pays. Il l'a ramené 20 ans plus tard. Parce que durant ces 20 ans-là, Dieu avait besoin de lui enseigner des choses. Et il les enseigne. Et troisième chose qu'on voit dans le passage, c'est que Jacob va vouloir remercier Dieu. Alors, quand on regarde le passage dans son ensemble, c'est que les premiers versets, c'est que Jacob recherche Dieu. Deuxième partie du chapitre 22, c'est que Dieu va se révéler à lui. Et troisième partie, Jacob va avoir envie de remercier Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Super de beaux passages. Alors, on va réviser un petit peu rapidement. Versets 1 à 9. Le Seigneur est recherché par Jacob. Comment on peut voir ça dans le texte? Dans les versets 1 à 5, on voit que c'est une recherche authentique, sans qu'on le relise au complet. On voit que Jacob va obéir à son père et à sa mère, donc il a le sens du devoir. Quand Dieu permet que, bon, OK, on va permettre que Ésaü ne te tue pas, mais pour qu'il ne te tue pas, il faut que tu obéisses à ce que je te commande, son père et sa mère. Il est parti, donc il était dans une bonne attitude pour rechercher le Seigneur. Alors, il y avait eu le souhait de sa mère dans le verset, chapitre 27, verset 43. « Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix. Lève-toi, enfuis-toi vers là-bas, mon frère, à Charan. » Et au commandement direct de son père aussi. Alors, dans le verset 1, on dit « Alors Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda. » Il n'a pas dit « S'attente, là, avec ce que tu viens de vivre, là. » Fais donc, commander, c'est militaire, ça. Moi, j'ai déjà fait de l'armée, c'est quand quelqu'un me commandait, j'avais intérêt à obéir, sinon j'aurais pu avoir des sérieux problèmes. Commander, son père lui avait commandé, sa mère lui avait dit « Obéis à ma voix ». Donc, il y avait une question d'obéissance, ils étaient tous les deux dans l'obéissance. Et il va partir et il va obéir à son père pour aller chercher une femme dans sa parenté. Autrement dit, l'idée, c'était un peu comme quelqu'un qui aujourd'hui dirait « Ne te marie pas avec un inconverti ». Marie-toi avec un converti, sinon tu vas avoir des problèmes dans ta vie, et des très sérieux problèmes dans ta vie. Alors, il est assez intelligent pour comprendre qu'il faut qu'elle cherche une femme là où Dieu veut qu'elle cherche une femme, parce que sa femme deviendrait la mère de la lignée messianique. Et ça, là, quand ils comprenaient ça, fallait que la personne comprenne que le fait de marier une femme comme Dieu voulait, c'était parce qu'elle devenait dans la lignée messianique. Abraham, Sarah, après ça les autres. Pas Sarah là, l'autre Sarah. Un autre Sarah. OK. Donc, il y avait la recherche du Seigneur dans la voie de la bénédiction. Dieu voulait bénir parce que Isaac avait dit « Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. » Autrement dit, les chrétiens, nos jours, c'est une suite de la bénédiction d'Abraham qui était transmise à Isaac, qui était transmise à Jacob. Donc, il y avait la recherche, l'obéissance, il y avait la recherche aussi du Seigneur dans la voie de la bénédiction, il savait que s'il obéissait, il y aurait la bénédiction, et il y avait aussi la recherche du Seigneur dans la voie de la promesse. Parce que, regardez bien ce qu'il dit, verset 4, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce qu'il avait essayé de faire, lui? De donner la bénédiction d'Abraham au plus vieux, alors que le Seigneur avait dit qu'il haïrait au plus jeune. C'est un grave péché qu'il avait fait. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi. Autrement dit, il est en train de comprendre que Abraham, Isaac, Jacob font partie d'une lignée, une chaîne, qui se rendrait jusqu'à l'arrivée du Messie. Et il y avait aussi, dans le verset 5, la recherche du Seigneur dans la voie de l'espoir, parce qu'il dit, « Puis Isaac fit partir Jacob, puis s'en alla à Padan-Aram vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. » Alors, Isaac, il a repris conscience de l'importance du choix de l'épouse de Jacob, tout simplement parce qu'il prend conscience que c'est par eux que la lignée du Messie va venir. C'est très important de saisir. Mais on apprend quelque chose dans le verset, un petit peu plus loin dans le chapitre de la Genèse, dans Genèse 35. Alors ici, on a Isaac qui décide de retourner chez lui, mais ça fait 20 ans qu'il est chez Laban. Sa mère lui avait dit, « Pars donc, Achmen, ton frère va se calmer. Là. Quand il va te calmer, là, tu vas revenir. » Pas tout à fait comme ça s'est passé. Il y avait toutes sortes de leçons que le Seigneur avait besoin de lui montrer. Genèse 35, verset 3, juste pour vous montrer que ça dit « Élevons-nous et montons à Bethel. » Autrement dit, il est en train de dire, après son séjour de 20 ans, après avoir reçu les instructions que le Seigneur voulait lui enseigner, il est reparti dans son pays, comme il était supposé retourner, mais... Alors, ça dit, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse. Donc, quand il est parti, il était dans la détresse. Et ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est comment le Seigneur a agi dans la vie d'un chrétien, un croyant, comment le Seigneur agit dans la vie de ceux qui sont dans la détresse. C'est souvent, il intervient souvent là où tu es dans ton plus beau. Le Seigneur intervient. 800 kilomètres, alors c'était un long voyage à pied, de Beersheba à Charan. Alors, il a mis au moins 2 jours pour atteindre Luz, que la Bible va dire qu'il va devenir Bethel. Pourquoi Bethel? Parce que c'est la maison de Dieu, c'est là qu'il y a eu un événement dans sa vie qui était crucial dans la vie de cet homme. Alors, bien entendu, les voyageurs cherchaient ordinaire à un endroit pour passer la nuit. Ici, il était la belle étoile. Et on a aussi une autre indication dans le chapitre qui est important de voir. C'est le chapitre 28, c'est la partie du verset 6 à 9, où on voit que Ésaü, contrairement à son frère, lui, il continue dans la voie de la désobéissance. Il y avait déjà 2 femmes cananéennes, et on avait vu dans les leçons précédentes que les Cananéens étaient des personnes qui faisaient brûler leurs enfants pour obtenir des faveurs de Satan. C'était vraiment des gens extrêmement méchants. Et lui avait décidé, Ésaü, de marier ce type de femme-là. Quand il a vu que son père et sa mère, elle était tellement découragée, elle dit, « Si mon fils marie encore une Cananéenne, j'aime mieux mourir. » C'est ça qu'elle disait. Et là, lui... Il dit, OK, elle n'aime pas les Cananéennes. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend une fille d'Ismaël que Dieu avait dit qu'il ne faisait pas partie de la bénédiction. Il était rendu à sa 3e femme, puis 3e femme hors de la volonté de Dieu. Alors, Ésaü, lui, n'avait rien compris. Isaac avait fait des erreurs, mais Dieu est en train de l'emmener dans la correction. Donc, dans le verset 10 à 15, là, on était rendu à peu près là la semaine dernière, on a... Le fait que Dieu s'est révélé à lui après un voyage de 2 jours à pied, il était rendu dehors, dans la détresse, dans la misère, dans la pauvreté. Il devait avoir encore à l'esprit tout le trouble qu'il avait eu avec Ésaü, la menace qu'Ésaü est en train de lui dire. Si j'avais resté là, il aurait eu ma peau, il m'aurait tué. Dans les versets 10 à 15, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le verset 12... dans le verset 13 et dans le verset 15. Il y a 4 fois l'expression « et voici ». Mais c'est très important parce que verset 12, alors ça dit « il eut un songe ». Dieu contrôle nos rêves. Il eut un songe « et voici, une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait aux cieux ». Il voit ça dans son rêve. Le deuxième est voici. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle, sur l'échelle. Et tout à l'heure, on a dit, on va le voir dans les versets du Nouveau Testament, que l'échelle, c'est Christ. Alors, qui est-ce qui fait le lien entre le ciel et la terre? C'est Jésus-Christ. Et dans le verset 13, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, l'Éternel lui parle personnellement. Alors que dans un état comme ça de détresse, le Seigneur vient s'adresser à lui et il veut lui faire comprendre des choses. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas marié, il n'y a pas de femme. Il est en train de dire, ton voyage va réussir, tu vas te marier, puis tu vas en avoir des enfants. Parce qu'il est en train de dire, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. C'est Dieu qui parle. Pensez-vous que ça va arriver?
Oui.
Ça va arriver. Et tu te répandras à l'Occident, à l'Orient, au Nord, au Midi. Autrement dit, tu es en train de te dire que les croyants de sa racine, autrement dit, vont se répandre dans toutes les directions. Le Nord, l'Est, l'Ouest, le Sud. autrement dit, toute la terre entière. Nous, aujourd'hui, on fait partie de cette bénédiction-là. Et le verset 15, quand on lit, des fois, on lit trop rapidement. « Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Pas sa mère. Sa mère, elle avait le projet de le ramener. Il n'est jamais revenu à cause de sa mère. Il est revenu à cause de Dieu. Et voyez-vous comment il termine? « Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. » C'est-tu rassurant, ça? Tu es en train de faire un voyage, tu es tout croche, tu as peur, tu es dans un état, tu es la nuit, tu es dehors, tu couches à terre, tu es la belle étoile. Là, Dieu vient te parler comme ça. La grâce du Seigneur. Hein? Dans notre misère, parce que l'équivalent arrive dans nos vies. Quand on lit un livre comme cela, un chapitre comme ça, et qu'on ne voit qu'une histoire, on manque le bateau, comme on dit. Parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est une histoire qui enseigne des principes qu'on a besoin de retenir pour nos propres vies. Parce que le Seigneur fait la même chose dans nos propres vies. Alors c'est ça qu'il faut retenir. Alors le regard de Jacob se fixe d'abord sur une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Et ça dit, sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle, mais le point central est que l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Donc, il voit l'échelle, qu'il y avait des anges montaient et descendaient. Et si on met ça en parallèle avec ce que les Écritures nous enseignent dans le livre d'Hébreux, il dit que les anges sont envoyés du ciel pour notre ministère, pour faire un ministère auprès de nous. Donc, les anges descendent de haut en bas, ils remontent en haut, ils font chez leurs ordres, ils reviennent, ils font ça continuellement. Et le Seigneur est au-dessus et il lui parle. Mais on va voir tantôt le verset du Nouveau Testament qui nous permet de dire que Jésus est l'échelle. Parce que les premières fois que tu lis ça, une échelle, tu comprends pas vraiment. Là. C'est parce qu'il y a des... Dans le fond, les Écritures, toutes les Écritures, tous les chapitres des Écritures nous parlent de Christ d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est parce qu'on lit sans rechercher Jésus-Christ. Voyez-vous, Hébreux 1,14, Dieu nous dit, il nous précise le rôle des anges. Et il parle des anges, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu dit qu'il envoie des anges qui partent du ciel, qui viennent sur la terre et ils reçoivent leurs ordres du Seigneur. En vue de qui? Un ministère pour nous, pour ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui ont hérité ou ceux qui vont hériter du salut. Alors, ils utilisent de toutes sortes de façons. Alors, là-dedans, on voit que Dieu travaille sur les circonstances dans la révélation. La circonstance de la bonne direction. D'abord, il l'a envoyé dans la bonne direction. Deuxièmement, la circonstance de la bonne condition et la bonne attitude pour la recevoir. Alors, il est dans le plus complet dénuement, vulnérable, craintif et hésitant. Il est sans ressources, c'est la nuit, il doit dormir sur le sol et à la bonne étoile, et c'est là que le Seigneur intervient. C'est-tu plus beau, ça? Nous autres, quand on a bien des gros problèmes, là, c'est souvent lorsqu'on est dans le plus bas que le Seigneur vient nous encourager, nous révéler des choses sur nos vies. Alors, le sens de la révélation dans le verset 12, alors il y a un songe, voici l'échelle. Alors, Dieu se sert de moyen pour se révéler. Bien, dans ce cas-là, c'est un songe, et ce songe-là est extrêmement riche en termes de signification théologique. Quand on met l'échelle, qu'on comprend que l'échelle, c'est Christ, donc qui fait le lien entre la terre et le ciel, et que les anges sont des ministres de Dieu, qui sont là pour les personnes, c'est extrêmement intéressant. La troisième chose, c'est surtout les promesses. Quand vous êtes dans un état, les mots qu'on vient d'utiliser, dénué, dans le dénuement, vulnérable, craintif, hésitant, sans ressources, là, le Seigneur vient intervenir et il lui parle. Et lui, il entend sa voix. Le Seigneur dit, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, l'échelle. » Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Il est en train de parler des croyants dans l'avenir, dans les siècles qui vont venir. Et tu te répandras à l'Occident, à l'Orient, au Nord et au Midi. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te mènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Ça doit être rassurant, après juste 10% de ton voyage, c'est un peu comme si nous autres, on saurait combien il nous reste de temps à vivre. On aurait, au milieu de 10%, le Seigneur vient te dire une chose pareille. Et pas peur, je vais toujours être avec toi, je vais te protéger. Tu vas te rendre, puis je vais te ramener. Puis... Pas pour rien que dans le verset chapitre 29, comme j'ai dit, j'avais commencé à le préparer un peu, et une des observations disait qu'un verset pour parler du voyage, la partie la plus longue, et tant de versets pour parler de la partie la plus courte, parce que c'est là que le Seigneur est intervenu. Alors, la confirmation des promesses de l'Alliance, il lui dit concernant le pays. Alors, il est sur le point de le quitter, de le pays, mais il reçoit l'assurance que Dieu lui donnera à lui et à ses descendants, la terre d'Israël, une nombreuse descendance, la promesse d'une postérité comme la poussière de la terre. Oui, il y a de la poussière de la terre, c'est beaucoup, là. Il dit, ta postérité va devenir comme la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il va y avoir des croyants qui vont s'échelonner de où ce que t'es, de quitter à aujourd'hui et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, la postérité va être nombreuse. Alors, la bénédiction des nations, il commence déjà à parler. Alors, les Juifs, ça n'a pas été long qu'ils ont cru qu'ils étaient uniquement les récipiendaires de la grâce divine. Mais Dieu, déjà, indique qu'il va y avoir les nations qui vont être compris là-dedans. C'est nous, ça! Dieu, déjà, à cette époque-là, nous voyait dans son plan. Alors, l'échelle qui relie la terre au ciel enseigne une vérité concernant le Messie futur, comme le laisse entendre Jésus à Nathanaël. Voyez-vous, dans Jean 1, versets 49 à 51. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit, je te voyais sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit aussi, « Amen, amen, en vérité, je vous dis que désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » C'est un verset, une clé interprétative du passage qu'on est en train de lire. Le Nouveau Testament nous la donne, la clé. C'est l'échelle, c'est Jésus-Christ, les anges qui descendent, parce qu'il dit bien, les anges, il dit, « Je vous dis que désormais, vous verrez le ciel ouvert. » Et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Donc, il est en train de dire l'échelle de Genèse 28, c'est moi. Intéressant, hein? Alors, les anges, ce n'est pas eux qui sont les médiateurs entre le ciel et la terre, c'est Jésus qui est le médiateur entre le ciel et la terre. Quand on regarde Jean 14, 6 aussi, si on l'a vu, je ne sais pas combien de fois, je me souviens à Sherbrooke, quand on se promenait avant de monter à King, là, il y avait une grosse enseigne sur un mur. Je ne sais pas si elle est encore là, je n'ai pas remarqué. Je pense qu'elle n'est plus là. Mais elle a été là des années, des années, des années. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors aujourd'hui, les religions qui disent qu'on peut aller au Seigneur par toutes sortes d'autres moyens, par toutes sortes d'autres religions, c'est faux. Parce que la Bible dit que c'est par Jésus-Christ que tu peux aller au ciel, que tu peux te réconcilier avec le Père et que tu ne peux pas passer. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Acte 4, 12. Je n'ai peut-être pas les mots exacts, mais c'est ça que ça veut dire. Alors Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on ne va pas au Père par Jésus-Christ, on n'y ira pas. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des problèmes avec ça. Beaucoup de religions enseignent qu'on peut aller au ciel par tous les moyens, toutes les religions du monde. C'est pas ça que la Bible dit. Mais on a le choix de croire ce que les gens disent dans le monde ou on croit ce que Dieu dit. Alors, il est en train de lui dire dans le verset 15, « Et voici, je suis avec toi. » Et il lui dit cinq choses dans le verset 15. Quand on est dans la détresse, recevoir ces cinq choses-là, il dit sa présence. « Je suis avec toi. » Quand Dieu est avec toi, là, tu n'as pas besoin d'avoir peur de rien du tout, du tout, du tout. Autre chose, sa protection. « Je te garderai partout où tu iras. » Donc, sa présence, sa protection. Troisième point, sa direction. « Je te ramènerai dans ce pays. » Il n'a pas dit quand. Il a dit « Je te ramènerai » et il l'a ramené, mais 20 ans après qu'il eut montré les leçons qu'il avait à apprendre. L'autre, sa provision. Autrement dit, je vais te donner tout ce que tu vas avoir besoin durant tout le temps de ton séjour quand tu vas être dans cette terre. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Recevoir ces paroles-là de la bouche même de Dieu, ça doit être rassurant un petit peu, vous pensez? Après ça, il dit, sa fidélité, il dit, tout ça, là, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Inquiète-toi pas, ce que je viens de te dire, là, ça va se réaliser à la lettre jusqu'à ce que j'ai fait tout ce que je viens de te dire. Alors, il va être avec lui, le garder, le ramener, ne pas l'abandonner, et il va accomplir fidèlement tout ce qu'il lui a promis. Alors, le verset, le troisième point qu'on voulait regarder, c'est le remerciement. Bien entendu, quand tu reçois une pareille bénédiction, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Si tu es le moindrement de gratitude, tu remercies le Seigneur. Il dit, par la foi de Jacob, alors une conscience aiguë de la présence divine. Verset 16. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu-ci et je n'en savais rien. Il vient de prendre une conscience aiguë de la présence de Dieu. Verset 17. Une révérence aiguë de la grandeur divine. Là, il vient de recevoir une révélation, mais ça va lui donner quelque chose, une idée de la grandeur de Dieu. Et il eut peur. Quand Dieu nous parle, il y a eu la peur. Et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. » D'après le Nouveau Testament, c'est qui la porte? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte. Il dit, « Je suis la porte. » Alors, en présence de Dieu, tous les membres de son peuple, mentionnés dans la Bible, ont une conscience aiguë de leur péché et de leur indignité. Et il lui dit aussi dans le verset 17b, Jésus-Christ lui-même se présente comme étant la porte des cieux. Jean 10, verset 7, Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Personne ne rentre au ciel s'il ne passe pas par la porte. Et il veut lui faire, il veut commémorer la bénédiction que l'Éternel lui donne, dans le verset 18 et 19, Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa en monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et le verset 19, et il appela ce lieu-là Bethel. Il y a des gens qui vont l'étudier à Bethel bientôt. Là. Ça veut dire maison de Dieu. Dieu permet qu'il ait une pleine conscience de comment le salut vient, tandis qu'auparavant, la ville s'appelait Luz. Alors, la verset 20-21, après qu'il y a eu toute cette bénédiction-là, non seulement il veut élever un monument de commémoration, mais il veut aussi faire un vœu, une diction qu'il va dire au Seigneur. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, certainement l'Éternel sera mon Dieu. » Et durant le séjour où il était là pendant 20 ans, l'Éternel a tout fait ses promesses. À un moment donné, quand Jacob est revenu, son caractère était changé. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, il avait compris des choses. Alors la foi de Jacob a été, dans le verset 22, « Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » Alors, il dit qu'il va lui donner la dîme. Il construit, il planifie de lui faire un autel. Ensuite, il veut consacrer tous ses biens, 10 % la dîme, c'est 10 % de tes biens que tu donnes au Seigneur en reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. Et tout ce que tu m'accorderas. On sait que quand il est parti de là-bas, quand il est arrivé, ta pauvre, comme Job, comme on dit, il n'y avait rien. Quand il est reparti, il y avait des enfants, il y avait une épouse, et il y avait plein de richesses, des brebis, des animaux. Dieu avait tenu sa promesse. Il lui dit qu'il va lui donner la dîme de chaud. Par rapport aux dîmes, juste un verset à nous rappeler, à nous aussi, pendant qu'on est là, parce que ça nous touche aussi. Ça dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. » Je l'ai vu à de multiples et de multiples reprises dans les églises. Des gens, quand tu commences à leur parler de donner la dîme de leurs revenus, « Mais là, j'arriverai plus. » Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? C'est là que quand on croit ce que le Seigneur dit, il y a des choses qui se passent. Voyez-vous, il dit, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison et éprouvez-moi en cela. » Autrement dit, il est en train de te dire, « Mets-moi au test. » Il est gros, hein, ce qu'il dit. « Mets-moi au test. » Il dit, « dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. » Autrement dit, ce que tu vas me donner, faites-en pas, je vais te l'ordonner. Ouvrir les écluses des cieux, ça veut dire que les bénédictions vont tomber en grande abondance. Crois le Seigneur. Et si je ne répands pas sur vous, la bénédiction sans mesure. Wow! C'est Dieu qui parle. Il dit, si tu donnes ta dîme, là, non seulement, il dit, il va ouvrir les écluses des yeux, mets-moi à l'épreuve, mets-moi. Puis après ça, il lui dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Une bénédiction divine, quand Dieu lui-même la dit sans mesure. Comment ça se fait que ça nous prend tant de temps à comprendre? Comment ça se fait que ça nous prend tant de temps à croire ce qu'il dit? Je l'ai vu tellement souvent dans ma vie que moi-même, tu avais pris du temps, on laisse une chance à tout le monde. Trois applications. C'est une grâce de Dieu que nous le recherchions. Jacob le recherchait, c'est une grâce. Quand Dieu nous donne de le rechercher, c'est une grâce. Jérémie 29, 13, c'est un verset que j'aime énormément. Vous me chercherez et vous me trouverez après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Le Seigneur te dit que si tu le recherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Amen. C'est une grâce de Dieu qu'il se révèle à nous. On a vu qu'il avait recherché une grâce qui se révèle à nous. Où il se révèle? Dans l'Assemblée? Il se révèle dans les Écritures? Il se révèle dans nos relations entre frères et sœurs? Il se révèle de différentes façons. Alors Dieu le fait, il se révèle à nous lorsque nous sommes dans la bonne direction, dans la bonne attitude, et pas en utilisant les différents moyens que Dieu met à notre disposition, qui sont la prière, la parole, la communion fraternelle, comme on fait aujourd'hui, et l'illumination du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous parlais ce matin, il faut que Dieu élimine ce qu'on entend et élimine ce que je dis, sinon... Ça va risquer d'être, ça va passer par un oreille, ça va sortir par l'autre. Dieu nous révèle, comme à Jacob, la personne et l'œuvre de Christ et par nos circonstances providentielles. Dieu parle par nos circonstances. Dieu nous parle par nos circonstances. Si on sait écouter. La troisième, c'est une grâce que de remercier Dieu. On le recherche, Dieu se révèle, mais quand on en reçoit des révélations des Écritures ou par des conversations qu'on a avec des frères et des sœurs ou par des circonstances providentielles, remercions-le. Remercions-le. Remercions-le toujours pour sa présence, pour sa protection, pour sa provision, pour sa direction, pour sa fidélité, pour ses innombrables grâces et pour son glorieux salut en Jésus-Christ. N'oublions pas de l'adorer par l'assistance à tous nos cultes, par notre service et par le fidèle paiement de nos dîmes. Amen. Louons, glorifions et exaltons notre grand et merveilleux Seigneur. Amen.
Amen.